Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis actuellement avec Laurent Chenot qui a une histoire extrêmement intéressante à raconter et qui va nous expliquer aujourd'hui comment démarrer un business à temps partiel parce que Laurent a 38 ans. Il a été, alors d'abord il a eu un parcours assez exceptionnel au niveau des études puisque il a fait HEC les mines et il a un MBA de Harvard et ensuite il a été cadre pendant des années et malgré cela il a réussi à créer une entreprise qui marche très très bien, une entreprise dans le développement personnel qui a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année et il a réussi à faire ça à temps partiel alors qu'il travaillait 3 jours par semaine. En tant qu'employé hein, dans son entreprise. Donc bonjour Laurent.
Bah écoute, bonjour Olivier, merci beaucoup de m'accueillir.
Alors est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises? C'est ça hein?
Non, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait correct. Effectivement, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai été cadre pendant longtemps. Et puis à un moment, j'ai eu le, comme on dit, le bug, le virus de l'entrepreneuriat qui m'a pris et j'ai décidé de créer ma propre activité à temps partiel.
Waouh! Donc voilà. Déjà, tes diplômes sont extrêmement impressionnants. On discutera justement de est-ce qu'ils t'ont apporté quelque chose dans ton parcours d'entrepreneur? Parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur sur le blog des livres pour changer de vie. Finalement, c'est l'auto-éducation. Et cette question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment si utile que ça d'avoir un parcours d'études classiques quand on veut être entrepreneur? Donc ça va être très intéressant de discuter de ça. Mais bon, le sujet principal d'aujourd'hui, c'est comment démarrer un business à temps partiel. Et je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet parce que enfin, si tu as l'emploi du temps typique d'un cadre qui a ton niveau d'études, tu devais quand même travailler beaucoup, même si c'était 3 jours par semaine.
Oui, tout à fait, c'est clair. Alors, c'est clair que j'avais des journées à n'en plus finir. J'avais aussi beaucoup de transport, hein. J'avais quasiment 3 heures de transport par jour. Et bien évidemment, pendant mes 2 jours par semaine que j'avais a priori sur mon business, eh ben, il y avait toutes les contraintes familiales, mais aussi j'avais souvent des coups de fil du boulot, des choses à terminer. Donc, c'est vrai que c'est a priori compliqué comme ça. On se dit déjà, avoir une vie, c'est complexe. Alors, en avoir deux ou plus, c'est encore plus difficile, mais pour moi, c'est essentiellement une question d'organisation. Et je pense qu'on parlera de cette question d'organisation. Quand on voit des gens comme, par exemple, Richard Branson qui gèrent et qui ont créé des dizaines de business, on se dit que quelque part, c'est possible si on a la bonne méthode. Et par contre, c'est un chemin, et c'est un chemin d'apprentissage. Il faut apprendre comment le faire, mais en tout cas, c'est possible.
D'accord, alors bah justement, on peut peut-être commencer par ça. Donc, ok, tu avais 2 jours par semaine. C'est depuis le début, c'était comme ça. Tu étais employé que 3 jours par semaine.
Oui, alors en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais décidé de créer cette société, de créer cette entreprise, et donc j'avais négocié avec celui qui était à l'époque mon futur employeur de ne travailler que 3 jours par semaine pour avoir 2 jours afin de créer mon activité. Alors j'ai créé pendant cette période plusieurs choses, en particulier une école pour enfants en difficulté d'apprentissage avec ma femme et un couple d'amis, et puis aussi j'ai commencé mon petit business sur Internet. Alors au début, ça a été un désastre total. Je crois que j'étais peut-être un peu trop sûr de moi. Tu vois, j'avais mes diplômes, j'avais fait du consulting pour des grandes sociétés du CAC 40. J'avais un peu d'expérience, un peu de bouteille, et j'avais aussi des fonds. J'avais du temps et je me suis lamentablement vautré. Donc j'ai perdu en gros 100 000 euros de ma poche. Hein, donc ça fait quand même un peu mal.
Alors ça, c'est ta première entreprise, donc.
Et donc ça, c'est ma première entreprise. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je m'étais juré quand j'étais plus jeune que je ne créerais jamais d'entreprise parce que c'était
C'était
trop
trop risqué.
compliqué. Ouais, c'est
D'accord.
trop risqué, trop compliqué et autres. Si tu veux, mon père, lui, était un ingénieur bon teint. Il fallait rentrer dans une grande boîte française et puis partir à la retraite après avoir fait sa carrière. C'est ce qu'il a fait en fait, sauf que il est mort justement de sa retraite. Donc il n'a jamais pu en profiter.
Ah oui, ah oui.
Et je pense que, si tu veux, le fait de l'avoir vu faire cette carrière et autres, ça m'a inspiré en me disant, mais peut-être que moi, je pourrais faire quelque chose ou suivre un autre chemin. Et de l'autre côté, j'avais ma grand-mère qui, elle, était une entrepreneuse, qui avait créé sa boîte et autres. Et je me suis dit, finalement, bah, pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de créer ma propre entreprise et puis d'être libre de mon destin, quelque part?
Alors ça, c'est intéressant. C'est aussi un sujet qu'on retrouve dans la semaine de 4 heures, qui est que à quoi bon attendre la retraite parce que déjà on n'est même pas sûr d'y arriver. Malheureusement, c'est ce qui arrivait à ton père et ça peut aussi arriver à tout le monde. Et ensuite, bah, c'est super, mais le problème c'est que quand on prend la retraite, on n'est pas exactement dans la force de l'âge,
Ouais.
donc on a laissé passer nos plus belles années.
Tout à fait. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, donc c'était, voilà, j'avais le début de la trentaine, et je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être maintenant le moment ou jamais, j'ai suffisamment d'expérience, je sais à peu près à quoi tout ça ressemble, et je peux franchir le pas, je peux créer mon propre business. Alors après, c'est sûr que, on va dire, dans tous mes diplômes et dans toute mon éducation, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est la création de ma première boîte.
100 000 euros, ouais, parce que même ton MBA d'Harvard était moins cher que ça.
Mon MBA d'Harvard était moins cher que ça, ouais. D'autant plus qu'il était financé par mon employeur de l'époque, mais par contre, ça a été une expérience absolument extraordinaire. Et je ne regrette pas un seul instant tout ça, et d'autant plus que ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs et de lancer ma deuxième activité, qui aujourd'hui est un leader dans le développement personnel sur Internet.
Alors, est-ce que tu dirais que, justement, tu dis que ta première entreprise, ça fait perdre 100 000 euros, que c'était ton expérience la plus chère mais la plus extraordinaire. Est-ce que tu dirais que c'est celle qui a été la plus rentable?
Oui.
C'était le meilleur investissement?
Ouais, je pense que c'était l'un des meilleurs investissements. D'un point de vue financier, j'aurais beaucoup de mal à le faire, mais par contre, d'un point de vue personnel, d'un point de vue réalisation de ma vie et devenir quelque part ce que j'ai envie d'être, ça très clairement. Et d'un point de vue financier, il faut voir, mais aujourd'hui, cette entreprise, elle me permet d'en vivre, elle me permet de faire vivre d'autres personnes, et c'est quelque chose que je n'aurais certainement pas pu faire si je n'avais pas vécu cette première expérience difficile, mais fortement enrichissante sur tous les plans.
Alors, donc là, on voit un point important qui est commun à beaucoup d'entrepreneurs, c'est finalement cette capacité à prendre des risques, mais aussi à prendre des risques calculés et à rebondir par rapport aux échecs et accepter l'échec comme faisant partie intégrante du processus d'éducation. Alors, bon, toi, tu avais quand même la chance d'avoir des fonds parce que tout le monde ne peut pas se permettre de perdre 100 000 euros comme ça et de pouvoir rebondir. Alors, pour revenir sur l'organisation du temps, tu as déjà donné un point important, c'est que quand on a un projet qui nous tient à cœur, on peut tout à fait essayer, en tout cas, de négocier avec son employeur pour travailler à temps partiel.
Tout à fait. Alors d'ailleurs, la législation le permet, hein, puisque on peut travailler à 60% quand on est dans un projet de création d'entreprise. Moi, je n'ai pas activé ce dispositif, mais je l'avais négocié dès le début. Et ça était parti d'un accord. Et mon employeur était gagnant parce que ils avaient un cadre qui pouvait faire un certain nombre de missions, et il l'avait pour les deux tiers du prix.
D'accord, alors ça c'est intéressant, je ne savais pas. Donc la loi permet à ceux qui veulent créer leur entreprise de travailler à 60% de leur temps de travail normal et l'employeur ne peut pas refuser.
Tout à fait, donc c'est quelque chose qu'on peut demander. Ah, alors après, il y a des règles particulières, il y a un cadre légal bien entendu, de même qu'on peut demander une année sabbatique. Alors là, évidemment, on n'est pas payé, mais il y a plusieurs options qui permettent d'optimiser entre le temps son projet d'entreprise et qui permettent de le faire en gardant une sécurité importante. Parce que tu parlais du risque, je suis un trouillard fini. C'est-à-dire que je suis extrêmement risque-averse, comme on dit. Je déteste le risque. Et pourtant, j'adore l'aventure, j'adore la création. Donc il y a un peu un paradoxe. Et la façon dont je le résous, c'est en essayant, comme tu le disais, de contrôler mes risques au maximum. Et donc à chaque fois que je fais quelque chose, mon premier projet, je me suis lancé comme ça en étant quelque part sûr du succès, peut-être un peu trop optimiste, mais ça m'a beaucoup appris. Et donc maintenant, chacun de mes projets est quelque chose que je teste et j'essaie à chaque fois de le tester à minima en termes d'argent et en termes de temps. Et il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, mais ceux qui marchent, je les développe et c'est comme ça que j'avance.
Alors ça c'est très intéressant, on y reviendra effectivement, il y a un peu ce mythe finalement de l'entrepreneur. Alors, je parlais tout à l'heure de la capacité à prendre des risques, mais c'est vraiment important, c'est des risques calculés. Hein, là l'entrepreneur c'est pas une tête brûlée qui va au charbon sans aucune préparation, et il y a toujours de minimiser ces risques et d'avoir des plans B qui font qu'on s'en sort si jamais on se plante.
Tout à fait. En fait, je me suis rendu compte de ça, et c'est vrai que j'avais ce mythe de l'entrepreneur qui est, comme tu dis, la tête brûlée, le joueur de casino à la limite, qui va tout flamber, ça marche, ça marche pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ça existait, mais que souvent, ce n'étaient pas ceux qui avaient le plus de succès. Ce sont peut-être ceux, il y en a peut-être quelques-uns qui y arrivent parce qu'ils ont eu de la chance, comme il y en a qui ont gagné à l'euro-million, et on parle beaucoup d'eux, mais sauf qu'en réalité, les entrepreneurs qui réussissent, ce sont des gens qui sont plutôt analytiques, certes qui ont de l'instinct, mais qui vont s'assurer qu'ils calculent leurs risques, qu'ils prennent leurs différents paris, un peu comme quelqu'un va être sur les marchés financiers et va s'assurer que tout est bien calibré pour que, quoi qu'il se passe, eh bien, ils gagnent quand même. Et c'est ça que j'ai appris et que j'ai mis en œuvre pour développer mon activité.
Très intéressant. Alors, pour revenir sur l'organisation du temps, donc tu avais 2 jours par semaine. Bon, on peut, enfin, c'est bien, mais c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui se diraient, mais ça suffit pas pour créer, pour créer surtout développer une entreprise qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors, quelle est ta méthode? Comment tu t'es organisé pour faire ça?
Je vais te dire, 2 jours par semaine, c'est pas assez quand on est mal organisé, et c'est quelque part trop quand on est bien organisé, parce que à partir du moment où tu as une entreprise qui est rentable, qui gagne de l'argent, eh bien tu peux tout à fait payer des gens qui vont travailler pour toi. Et je crois que c'est l'objectif de tout entrepreneur que d'avoir une entreprise qui finalement n'a plus besoin de lui. Un peu comme un parent qui va élever son enfant. Au début, l'enfant a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de soins, mais je considère que l'objectif d'un parent, c'est quand même de faire que son enfant soit indépendant et puisse mener sa vie. Eh bien, pour moi, mon entreprise, c'est l'un de mes enfants. Et c'est vraiment comme ça que je le vois, en me posant à chaque moment, à chaque jour, qu'est-ce que je peux faire par quelqu'un d'autre? Comment je peux faire que mon entreprise dépende de moins de moi? Et ça, c'est très concret, c'est pas juste des questions intellectuelles qu'on se pose. Tout au début, j'ai fait une liste de l'ensemble des tâches que je faisais. Et je me suis dit, quelles sont les tâches que j'aime faire et quelles sont les tâches pour lesquelles je suis bon et où j'ai envie d'être meilleur? Et j'ai essayé de ne garder que ces tâches-là et de trouver des gens qui étaient capables de faire les autres. Alors, je vais donner un exemple extrêmement concret. Pour moi, en fait, le créer une entreprise sur Internet, c'est non seulement la plus belle aventure que j'ai faite, le plus bel exercice de développement personnel, mais je trouve que c'est aussi l'un des business models les plus simples qui soient. Parce qu'en fait, il n'y a besoin que de 3 composants. Le premier composant, ce sont les contacts, c'est-à-dire finalement combien de personnes on peut toucher, combien on a de clients potentiels. Oui. Le deuxième, ce sont les offres, qu'est-ce qu'on leur vend. Et puis le troisième, c'est quelle organisation on met en place. Ça, c'est ce que j'appelle le triangle d'or. Et si tu veux, depuis le début, je me suis dit, voilà, ça c'est mon triangle, et comment je peux faire grandir chacun des côtés. Parce qu'évidemment, si les côtés ne sont pas de la même taille, eh ben, le triangle, il est un peu difforme.
Tu peux répéter les 3 arêtes du triangle d'or ?
Alors, le triangle d'or, pour moi, c'est la première, ce sont les contacts, ou on va dire les clients, tous ceux à qui on peut, qui ont un problème, qui ont une difficulté, quelque chose pour lequel on peut leur apporter une solution.
D'accord.
Le deuxième point, ce sont les offres. Qu'est-ce qu'on leur vend concrètement ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? Et puis, le troisième point, c'est l'organisation. Comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner tout ça, pour faire fonctionner au même rythme les contacts, les offres. L'image que je donne, elle est un peu, c'est un peu développement personnel, mais c'est un peu, pour moi, une entreprise, c'est un être vivant. C'est-à-dire que, un peu comme on respire, on a notre cœur qui bat, et puis si on court trop vite, on va s'essouffler, et il y a besoin de cet équilibre entre la respiration et les battements du cœur. L'entreprise, c'est pareil. On va faire rentrer de nouveaux clients dans notre système, on va sortir de nouvelles offres, et tout ça à un rythme, et il faut que ça fonctionne en harmonie, un peu comme une machine bien huilée. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai conçu et que j'ai développé mon entreprise.
Oui, c'est très intéressant cette analogie avec le corps humain qui est effectivement un système avec des tas de composants internes qui fonctionnent, on pourrait croire, de manière indépendante, mais s'il y en a un qui fonctionne pas bien, l'ensemble du système va mal fonctionner.
Exactement. Et moi, mon rôle, c'est un peu ce qu'on dit en disant il faut pas travailler dans son business, mais travailler sur son business.
Oui.
Mon rôle pour moi, tel que je l'ai conçu, ça n'a jamais été de dire voilà, il faut que je sois responsable des offres ou de l'organisation ou des contacts, ou je travaille sur du copywriting ou autre. Ça a été de dire je dois être le chef d'orchestre, celui qui conçoit le système, celui qui conçoit la façon dont ce système fonctionne et qui va trouver les bonnes personnes pour remplir les différents rôles. Alors au début, ben, j'avais personne, j'avais pas de contact, donc j'ai tout fait moi-même. Alors c'était long parce que j'avais pas de méthode. À l'époque, il n'y avait pas les formations qui peuvent exister aujourd'hui. Je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps avec des formations pertinentes, mais j'ai dû tout apprendre moi-même. Mais l'avantage, c'est que ça a permis de comprendre les différents morceaux. Et donc maintenant, je suis capable d'identifier les personnes qui vont être capables de faire ces différentes tâches. Alors, j'ai donné un exemple extrêmement concret. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est vraiment les contacts. Les gens qu'on est capable de, à qui on est capable de proposer des offres.
D'accord.
J'ai réuni en à peu près 4 ans un peu plus de 1 million de contacts.
Waouh !
Et 1 million de contacts ciblés. Hein. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment des contacts ciblés et des clients potentiels. Alors, ils ne sont pas tous clients, hélas. Ils le seront peut-être un jour.
C'est des prospects, hein, voilà.
C'est effectivement des prospects, et dedans, ben, y a bien évidemment qui deviennent clients. Et la façon dont j'ai fait ça, c'est très clair que j'aurais jamais pu faire ça si jamais je m'étais retrouvé tout seul devant mon ordinateur en train d'essayer de faire des articles pour essayer de capturer du trafic. Ça, ce sont des méthodes qui fonctionnent, mais par rapport à mes contraintes, c'est-à-dire 2 jours par semaine, c'est beaucoup et en même temps c'est rien du tout, c'était une méthode que je ne pouvais pas utiliser. Donc ça veut dire que dès le début, j'ai fait une croix sur toutes les techniques que j'appelle de trafic gratuit, c'est-à-dire écrire des articles, faire un blog, tous ces éléments-là. Donc ce sont des choses qui marchent, mais moi, je n'étais pas en mesure de les mettre en place.
Je comprends, d'accord. Donc tu sais, c'est là où tu t'es dit, il faut absolument que je puisse générer des listes rapidement. Et donc pour ça, il faut que je paye pour ces prospects.
Tout à fait. Bah, en fait, c'est comme quand tu vas payer quelqu'un dans ta société pour écrire un article, par exemple, ou pour répondre à des clients. Je me suis dit, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas bon pour générer des contacts, je ne sais pas faire et je n'ai pas les ressources, je n'ai pas l'expérience. Donc, qui est bon pour générer des contacts?
Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que voilà, quand tu te demandes comment je vais déléguer, ce n'est pas juste à des gens que tu vas embaucher, ça peut aussi être à des prestataires, des sociétés spécialisées qui ont déjà une grande expérience dans le domaine.
Absolument. Pour moi, c'est la même logique. C'est quelque chose pour qu'on n'aime pas et pour lequel on n'est pas bon. Comment on peut faire pour le donner à quelqu'un qui est meilleur que nous? Et donc, j'ai commencé en fait au début avec Google. Donc AdWords, j'ai commencé à faire de la publicité sur AdWords. Et effectivement, Google est bien meilleur que moi pour générer des contacts. Ça, c'est clair. C'est un peu leur métier. Et en fait, le problème que j'avais au début, c'est que j'arrivais à avoir beaucoup de volume. Mais par contre, je payais très très cher ces contacts. Donc ça veut dire que j'avais un chiffre d'affaires important, mais j'avais une rentabilité qui était faible.
D'accord.
Mais,
alors c'est toi qui faisais ça, tu gérais toi-même les pubs sur AdWords?
Oui, c'est moi qui les gérais moi-même. Alors j'ai travaillé avec des agences à un moment, mais je me suis rendu compte, alors il y en a peut-être qui sont très bonnes, mais malheureusement j'en ai pas vraiment trouvé. Et donc j'ai toujours gardé cette fonction-là internalisée.
D'accord.
Donc je travaille en direct avec Google, et après Google a différents moyens entre le search, entre le display, donc il y a plusieurs outils, mais petit à petit j'ai appris à maîtriser ces outils, et à diminuer mon coût par contact, et donc à augmenter ma profitabilité.
D'accord, donc au début c'était juste un manque d'expérience de ta part qui faisait que tu payais aussi cher. Tu t'es plongé dans la compréhension des mécanismes d'AdWords, et tu as réussi à trouver les différents leviers pour...
Tout à fait.
Diminuer le coût de lead, au lead, d'accord.
Absolument. Alors d'ailleurs, je précise un point, c'est que l'important, c'est pas tant le coût au lead, oui. L'important, c'est le retour sur investissement.
D'accord.
Je pense que ce sera évident pour toi, mais juste pour donner l'exemple, imaginons que je sois capable de te vendre un billet de 10 euros pour 5 euros. Légalement, hein, bien évidemment, c'est pas de la fausse monnaie, c'est du vrai argent, et je te dis, voilà, t'as 10 euros et je te le vends 5 euros. Combien est-ce que t'en veux?
Comment?
Combien t'en veux?
Ah bah j'en veux autant que je peux acheter.
Bah autant que tu peux acheter. Et oui. En plus, ce qui est intéressant, c'est que imaginons que tu es juste 5 euros, tu vas m'en acheter un, bah tu vas avoir 10 euros, tu vas pouvoir en acheter deux, et ça devient exponentiel.
Exactement. Et c'est vrai que c'est une bonne image de la pub sur AdWords. Effectivement, bon, sauf que en l'occurrence, là, tu as une quantité limitée de billets dans AdWords, qui est la quantité de trafic total.
Mais oui, tout à fait. Mais par contre, alors c'est vrai que c'est la quantité de trafic total. Par contre, tu peux de cette façon, entre guillemets, saturer un marché. C'est-à-dire que tu peux devenir, si tu utilises bien ces outils, devenir le leader d'une niche, quelle que soit la niche que tu choisis. Parce que quelque chose que je me suis rendu compte, si tu veux, au début j'étais là, j'expérimentais un peu et je regardais pas vraiment les statistiques, je pataugeais. Et puis à un moment j'étais regardé en me disant, mais finalement, sur combien de sites est-ce que ma publicité apparaît? Et là, j'ai ouvert des yeux grands comme des soucoupes, parce que mon site apparaissait sur genre 25 000... Bon, ma publicité apparaissait sur genre 25 000 sites.
Ça, c'est intéressant, voilà. Ah oui, 25 000 sites, waouh.
Donc, tu vois, j'aurais fait un blog, même le meilleur blog du monde, et j'aurais mis ma pub pour télécharger mon rapport gratuit, ça aurait été un de ces sites. Peut-être qu'il aurait compté pour 100 ou 1000 de ces sites, mais là, j'en avais 25 000. J'avais 25 000 personnes qui bossaient pour moi.
Par contre, si demain, t'arrêtes les pubs, t'es plus sur aucun site.
Alors, effectivement, si j'arrête les pubs, je ne suis plus sur aucun site. Par contre, j'ai la base de données que j'ai créée de mes 1 million
de contacts. Tout à fait, oui, ouais, c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'effectivement, après, chaque modèle a ses forces et ses faiblesses. Ça m'a permis de construire ma base de données et mes sources de trafic sans avoir besoin d'y investir du temps, parce que tout ça, ça arrive de façon passive. L'image que je donne, c'est que c'est un peu comme si Google me payait moi pendant que je dors, pour construire ma propre liste.
je comprends ce point de vue. Effectivement, quand tu es rentable, quand tu prends de la pub chez Google et que plus tu en achètes, plus tu gagnes de l'argent, on peut le voir comme ça.
Voilà. Donc à partir du moment où tu as... Alors après, il y a une technicité, d'accord, il n'y a, y a rien de magique là-dedans, ça demande de bien connaître, ça demande de suivre ce qu'on fait, mais il y a, avec le temps, j'ai découvert certaines méthodes, comme par exemple, combien est-ce qu'on doit payer un contact pour maximiser son profit ?
Alors dis-moi.
Alors j'ai donné la réponse et en fait je le démontre mathématiquement, mais c'est pas le lieu, c'est que ça dépend de la valeur de ton contact. Imaginons qu'un contact qui rentre dans ton système parce que tu vas lui vendre des choses te rapporte 5 euros, eh bien il faut que tu le payes 2,50 euros, donc il faut que tu lui payes la moitié de sa valeur.
Et pourquoi ça?
Parce que alors, pourquoi j'ai expliqué très, très simplement et sans faire les équations mathématiques qu'il y a derrière. En fait ce qui se passe c'est que plus tu vas payer tes contacts chers, et plus tu vas en avoir. C'est normal. Si tu dis à Google, écoute, à chaque fois que tu m'apportes une personne, je te donne 100 euros, je pense que là, tu prends tout le réseau Google. Mais par contre, tu vas devenir très, très vite pauvre. Tu vois. et Google va devenir encore plus riche. Par contre, si tu dis à Google, écoute, tu m'envoies tous les contacts que tu veux, mais je te paye zéro, tu ne vas pas en avoir un seul.
Oui, c'est vrai.
Donc, plus tu payes cher, et plus tu as de contacts. En même temps, plus tu payes cher par contact, et moins tu as de profitabilité. Donc, il y a quelque part un curseur qui commence à zéro, c'est-à-dire zéro contact, pas d'argent, et qui va au maximum jusqu'à la valeur que tu apportes à ton contact. C'est-à-dire que si ton contact te rapporte 5 euros de profit et que tu payes 5 euros à Google, eh ben, tu as fait zéro en termes de profit.
Tout à fait. Donc, d'accord.
Donc entre ces deux zéros, tu as un optimum. Et je démontre mathématiquement qu'en fait, l'optimum se retrouve au milieu.
Donc 2,5.
Donc dans ce cas-là, 2,5. Si la valeur de tes contacts, c'est 3, c'est 1,5. Si c'est 10, c'est 5. Et c'est là que c'est intéressant parce que plus tu as de contacts et plus tu es capable de faire des tests, plus tu as de ressources, plus tu es capable de faire d'offres et donc plus tu augmentes ta valeur par contact. Donc plus tu peux augmenter ce que tu payes à tes sources de trafic et plus tu peux augmenter ton activité.
Oui, je comprends. Oui, c'est vraiment donc, c'est un cercle vertueux qui s'enclenche, effectivement. Et alors, quand tu dis 5 euros, c'est bien 5 euros comme dans la valeur à vie ou bien c'est une valeur sur un an ou immédiate?
Il y a plein de façons de calculer la valeur et c'est sûr que plus tu prends un horizon long et plus tu vas pouvoir payer tes contacts chers, plus tu en auras, mais plus il faudra attendre de temps avant d'être rentable. Donc c'est ce que tu appelles la valeur par contact, c'est une décision managériale. Moi, personnellement, je considère que ma valeur par contact, ça va être ma valeur sur l'année.
D'accord.
Donc c'est combien me rapporte un contact en moyenne sur l'année.
D'accord, c'est la valeur sur l'année, ok. Donc ça veut dire que de toute façon, bah déjà, comme tu payes la moitié de ce qui va te rapporter sur l'année, tu peux espérer rentabiliser très vite quand même au moins ton investissement.
Tout à fait. Alors d'autant plus qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent en disant « Ah oui, la publicité est payante, moi je ne veux pas sortir d'argent », c'est ce qu'on dit souvent, mais on oublie que un point très important en business qui sont les conditions de paiement. C'est-à-dire que par exemple, dans mon cas, je paye Google à 3 mois. C'est-à-dire que je touche l'argent de mes contacts avant de payer Google. Et 3 mois avant de payer Google.
Ça, c'est génial. D'ailleurs,
donc
c'est
ça veut dire qu'en termes de trésorerie, je suis positif aussi.
Ouais, c'est super. Ça, c'est un business model qui est mis en avant dans la semaine de 4 heures, exactement comme toi, où on paye ses fournisseurs, ce qui amène les ventes après que les clients aient payé. Donc on ne peut jamais se retrouver en défaut de trésorerie, c'est impossible.
Voilà, donc c'est un bon modèle, parce qu'effectivement, on est payé avant. Et c'est ce modèle-là qui, quelque part, m'a permis de créer, comme tu le disais, des cercles vertueux parce que, quelque part, plus je dépensais d'argent et plus j'en avais, plus je pouvais en dépenser et ça tourne comme ça. Alors, je pense très sincèrement que quelque part, ma croissance a été trop rapide par rapport à ce qu'elle aurait dû être.
Ah bon ? C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences à avoir d'un seul coup des contacts qui augmentent très rapidement, ben, tes serveurs sont plus adaptés, ton équipe elle est plus adaptée, tes systèmes sont plus adaptés, tu commences à avoir à toucher beaucoup de monde, donc y a tout un tas d'effets de bord à gérer. Quand tu te retrouves avec des centaines de messages sur ta messagerie ou de questions ou de gens qui veulent acheter tes produits, rien que des gens qui t'envoient un bon de commande ou un chèque, ben, il faut les gérer. Et je pense, si tu veux, je voulais me démontrer que j'étais capable de croître vite, et je l'ai fait, mais avec le recul, je pense que j'aurais dû limiter volontairement ma croissance, tester encore plus les choses, et vraiment appuyer sur le bouton de la croissance quand les choses auraient été un peu plus calées.
Oui, tu veux dire que tu n'avais pas encore mis en place ton système, et que bah, y a eu des goulets d'étranglement pour encaisser l'échec et tout ça. Et on sait que l'étranglement, bah, typiquement, ça, le plus gros désavantage, c'est que bah, les clients sont mécontents. en tout cas une certaine
tout
partie.
À fait. Alors nous, si tu veux, on a préservé les clients, mais je pense que j'en ai payé le prix sur mon temps, sur mes nuits, sur tout ça. Mais j'ai toujours considéré que quelque part avoir trop de clients était plutôt un bon problème à avoir.
Oui, c'est voilà, il y a des problèmes plus difficiles, effectivement.
Problèmes plus compliqués.
Ouais, donc. Tout à fait.
Mais tu vois, je vais te donner un exemple concret du problème que ça m'a causé, c'est que comme je travaillais beaucoup sur le fait d'avoir les contacts, j'avais pas compris, si tu veux, ce système du triangle d'or à l'époque. Il paraît très très simple, ce système, il paraît même évident et à la limite, tu vois, c'est une palissade, il n'y a rien de nouveau là-dedans, sauf que cette façon de concevoir les choses, pour moi, a tout changé. Parce que au début, je ne travaillais que sur mes contacts et je ne travaillais pas sur mes offres. Et je travaillais sur mon organisation quand j'y étais forcé. Ça veut dire que mon triangle, si tu veux, il était totalement difforme.
Oui.
Et donc, je passais tout mon temps sur mes contacts, passé sur mon organisation, et donc je courais un peu après ma propre queue comme un chien, tu vois.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Et c'est au moment où je me suis dit, attends, il faut que j'arrête, il faut que je développe de nouvelles offres, que là, d'un seul coup, ma rentabilité a commencé à vraiment augmenter. Parce que non seulement j'avais la rentabilité immédiate de ce que pouvait m'apporter Google ou d'autres sources de trafic, mais j'avais aussi toute cette rentabilité, tout ce chiffre d'affaires qui venait des gens qui étaient déjà dans mon système, de mon stock.
Voilà, c'est super. Ouais, donc tu as pu vendre à tes clients existants qui n'avaient plus rien acheté et aux prospects qui n'avaient pas été convaincus jusque-là et qui se sont dit « Ah bah tiens, ça c'est pour moi ».
Exactement. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que j'équilibre. Je crois que j'avais un peu le stress de l'entrepreneur qui dit, ah bah oui, il faut que j'ai de nouveaux clients, il faut que j'ai de nouveaux clients, il faut que j'ai de nouveaux clients. Alors qu'en fait, on le sait, mais c'est pas pareil de le savoir et d'agir par rapport à ça. On sait que c'est plus facile de vendre à un client existant que de trouver un nouveau client.
Oui, oui.
Et donc moi, j'étais dans cette course aux nouveaux clients, aux nouveaux contacts, j'ai donc négligé de proposer de nouvelles choses à mes clients. Et quand j'ai commencé à proposer de nouvelles offres, eh bien là, mes clients ont été très contents d'ailleurs, et j'ai commencé à pouvoir renforcer ma relation avec eux.
Waouh, super. Donc tu as utilisé cet effet de levier énorme qui est ta base, alors qu'avant, elle était moins utilisée.
Je savais pas comment l'utiliser, j'avais pas cet effet de levier. En fait, je m'étais construit un actif, comme on dit, mais je ne l'utilisais pas. Donc un actif qu'on n'utilise pas, c'est un passif. Donc j'ai commencé à vraiment l'utiliser et là, ça a vraiment changé beaucoup de choses.
Waouh, ok. Donc tu commences par la pub sur AdWords, ça décolle bien. Ensuite, tu affines justement en rajoutant des offres, en travaillant sur l'organisation. Est-ce que tu as utilisé d'autres sources de leads à part AdWords ?
Alors oui. Mais en fait, au début, je crois que j'étais victime du marketing d'AdWords et j'avais l'impression qu'en gros, c'était la seule source de contact.
D'accord, ok.
Qu'en gros, il y avait eux et après, il y a eu Facebook. Mais qu'en dehors d'eux, si tu veux, ils touchaient tellement de monde et ils touchaient tellement tout le monde que c'était même pas la peine d'aller voir ailleurs. Mm-hmm. Ça, c'était la croyance que j'avais. Et puis, à un moment, j'ai croisé quelqu'un qui faisait à peu près la même chose que moi aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui a une entreprise qui faisait il y a quelque temps 36 millions de dollars. Donc, c'est quelqu'un qui sait à peu près de quoi il parle. Et je me suis rendu compte que ce gars-là, dans un domaine assez proche du mien, recrutait des centaines de nouveaux contacts par jour, des dizaines de milliers par mois. Et je me suis dit, mais pourquoi je me limite ? Et si tu veux, comme j'avais conçu un peu ce modèle, je me suis dit, bah, ok, ce gars-là, il a un côté contact de son triangle qui est beaucoup, beaucoup plus grand que le mien. Comment fait-il ? Et donc, j'ai creusé ce sujet-là. Je n'ai pas essayé de tout apprendre de son business, parce que j'avais eu l'opportunité de discuter avec lui, de le rencontrer. Je me suis focalisé sur ce sujet-là. Comment faisait-il pour être aussi bon dans le domaine ? Et je me suis rendu compte qu'il utilisait des sources auxquelles j'avais jamais pensé. Alors, et j'ai fait la même chose que lui.
Oui, alors vas-y, dis-nous.
Et donc en termes, je vais mentionner les sources que j'utilise, mais en termes de résultats, le mois dernier, j'ai collecté en moyenne 1400 nouveaux leads ciblés par jour.
Wow.
C'est-à-dire que tous les jours, il y a 1400 nouvelles personnes qui se sont inscrites pour recevoir le cadeau gratuit que je leur propose. Et qui après sont dans mon système, reçoivent mes différentes offres en automatique.
D'accord. C'est parce que ton système est déjà tout fait. Ensuite, elles ont une séquence d'emails qu'elles vont recevoir avec un délai programmé et
qui
vont proposer différentes offres.
Tout à fait. Alors après, depuis, mon système est, j'investis dans mon système, donc ce qui fait que je suis capable, par rapport au comportement des gens, de segmenter ce que je leur propose. Mais sincèrement, j'avais pas du tout ça quand j'ai commencé. Et c'est vrai que rien qu'une séquence toute simple qui s'inspire des besoins des gens, qui leur propose des offres pertinentes, eh bien c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, je réponds à ta question sur mes sources de contacts. Je considère en fait qu'il y a trois étages dans la fusée des contacts. Le premier, c'est le trafic gratuit. Ça, j'ai jamais réussi à faire. Je ne sais pas faire, pour moi, c'est magique. Ce que tu fais, Olivier, et tous ceux qui font du blogging et autres, c'est juste magique. C'est créer de l'argent à partir d'électrons, tu vois. Donc, je trouve ça juste fabuleux. Donc ça, c'est le trafic gratuit. Le deuxième, c'est le fait d'avoir recours à des affiliés, des partenaires. Et on va rémunérer ses partenaires un pourcentage du chiffre d'affaires qu'ils génèrent.
Oui.
Mais il y a une autre façon de faire qui est ce qu'on appelle le CPA, c'est-à-dire le coût par action. Au lieu de rémunérer les partenaires un pourcentage du chiffre d'affaires qu'ils génèrent, eh bien on va simplement les rémunérer soit au clic, aux visiteurs du site, soit aux contacts inscrits. Et pour ça, alors je donne quelques exemples. On a par exemple Google. Quand on tape dans la barre de recherche de Google, eh bien on peut sortir dans les premiers résultats. Donc dans mon domaine, il y a plusieurs millions de concurrents. Il y a vraiment littéralement des millions de pages qui parlent du même sujet. Et quand on tape les mots-clés qui m'intéressent, eh bien je ressors en première page, vraiment en première position de Google. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi ce qu'on appelle le display, c'est-à-dire je prends encore une fois l'exemple du réseau Google, mais ça pourrait être la même chose sur Facebook. Eh bien, on va afficher différentes publicités qui peuvent être liées à la thématique d'un site, qui peuvent être liées aussi au comportement d'un internaute, et les gens vont cliquer dessus, vont arriver sur notre site, et on paye aux visiteurs. Après, on rentre dans des sujets. Alors ça, ces sujets, ils sont relativement connus, mais pour moi, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est pas là qu'il y a la meilleure rentabilité. Pour donner un exemple, sur Google, ma rentabilité est à peu près de 1,20. C'est-à-dire que quand je dépense 1 euro sur Google, je gagne 1,20 €. Donc j'ai 20 centimes de profit. Mais j'ai des sources de contacts qui peuvent me rapporter 3 fois ce que je dépense. Wow. Et j'ai même une source qui me rapporte 30 fois ce que je dépense.
Wow, excellent. D'accord.
Alors, il n'y en a pas suffisamment qui rapportent 30 fois, d'accord. Mais elles existent quand même. Alors comment avoir ces rentabilités-là? Eh bien, il y a certes la publicité au clic, comme je le mentionnais, mais il y a aussi en gros les campagnes d'emailing, c'est-à-dire qu'on va avoir des partenaires qui ont des centaines de milliers, des millions d'adresses email en base, et même chose, on va les rémunérer au contact, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer un email pour inciter les gens à visiter notre site, et on ne les paye que si quelqu'un s'inscrit.
D'accord, donc on paye au prospect qualifié qui s'inscrit dans notre
prospect, on paye au prospect qualifié. Alors évidemment, le coût, plus on demande d'informations précises, et plus ça va être cher, plus on est ciblé, plus c'est cher. Mais pour être très transparent sur les chiffres, aujourd'hui, un contact général, ciblé certes, mais entre guillemets normal, sans conditions particulières, ça se négocie aux alentours de 1 euro.
D'accord.
Donc ça veut dire que, et l'avantage, pourquoi ces contacts sont si rentables? Parce que ce sont des gens qui sont dans des bases email, qui ne se sont pas désinscrits, qui ont ouvert un email, qui ont cliqué, et qui se sont inscrits. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont ultra qualifiés.
D'accord.
Et surtout, ce sont des gens qui comprennent comment fonctionne le marketing par email.
Mais quelle est la source de ces bases immenses de 1 million, plusieurs millions
Eh bien, ça, ce sont des médias. Moi, je suis éditeur sur Internet, je vends des produits. Mon travail, c'est d'optimiser la valeur des contacts qu'on me donne, des leads. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont spécialisés dans la collecte de contacts. Ils peuvent le faire avec des jeux de concours, ils peuvent le faire avec des blogs qui vont être très, très importants. Ça peut être des sites de médias, ça peut être des sites comme, le site de psychologie, par exemple, ou ça peut être donc tous ces médias dont le travail, c'est justement de collecter des leads. Alors je vais être extrêmement caricatural, mais je pense que c'est important pour bien comprendre. Le contenu, parce qu'en fait c'est ça qu'on vend sur Internet, c'est de l'information, c'est du contenu. Et en fait, entre gratuit et quasiment l'infini, on trouve de tout. Un cours de développement personnel, on peut trouver ça, on peut trouver un PDF gratuit sur le net, on peut le trouver moyennant quelques euros, ou on peut avoir une formation à quelques milliers d'euros pour devenir coach, par exemple. Donc il y a tout un continuum entre le gratuit et le payant. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans le fait de diffuser du contenu gratuit pour avoir des contacts, c'est ce qu'on appelle des médias, et on a des gens qui sont éditeurs dont le but c'est de faire du contenu payant. et de le vendre. Et moi, je me positionne au milieu. C'est-à-dire que je parle aux médias et je leur dis, vous avez des contacts, ben moi je les prends et je vous paye. Et je travaille, et on y reviendra peut-être, avec des gens qui produisent des offres, j'en produis moi-même, et je leur dis, moi je suis capable de vendre vos offres. Et je suis au milieu.
D'accord. Donc tu es une sorte de, enfin comme pour les assureurs, une sorte de courtier en fait.
Alors, on peut le voir comme un courtier, ou on peut le voir aussi comme un, tu vois, comme le grand chef dans une cuisine qui va coordonner les différentes personnes qui travaillent pour faire un grand plat. On peut le voir comme un chef d'orchestre. Donc, il y a plusieurs images. Mais l'image que moi je donne, c'est celle de l'écosystème. C'est qu'il y a un travail en commun qui est fait entre celui qui collecte les contacts, le média, celui qui fait les offres, l'éditeur, et celui qui va faire prendre la sauce et qui va assurer la meilleure expérience client possible.
D'accord.
Voilà, donc tout ça pour dire que, donc ça c'est un exemple, je citais les contacts par email et pourquoi ils sont si rentables, parce que ce sont déjà des gens qui sont dans ces processus-là, qui comprennent l'intérêt d'acheter des produits sur Internet, qui comprennent l'intérêt de toute cette façon de fonctionner. Et puis il y a une autre façon de faire qui s'appelle la co-registration, c'est-à-dire qu'il y a des sites, tu en as certainement vu, où tu t'inscris, et puis on te propose de cocher une case pour recevoir des cadeaux gratuits.
D'accord, alors. D'accord, donc on s'inscrit sur un site, ça peut être n'importe quel type de site.
N'importe quel site, ça peut être le site d'un média, ça peut être le site, je ne sais pas si c'est le cas, mais par exemple ça pourrait être Télé 7 jours, ça pourrait être un site gratuit d'horoscope, ça pourrait être plein de choses si tu veux. Et on te propose de recevoir quelque part des offres partenaires, sauf que ce sont des offres qui sont clairement identifiées, en te disant voilà, si vous cochez ici, vous allez recevoir telle chose. Donc, et ce principe de co-registration te permet en fait de recevoir, des contacts que tu vas pouvoir charger dans ton système d'information, dans ton système de gestion client, dans ton système d'envoi d'emails automatisé. Ou alors tu peux leur envoyer des mails à la main si le nombre est limité. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut recruter beaucoup de contacts à des prix qui vont commencer à un quart d'euro par contact ciblé, donc 0,25 centimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir pour 25 centimes un contact ciblé.
Et ensuite, le contact est dans ta base, t'en fais ce que tu veux.
Le contact, c'est un contact considéré comme opt-in, c'est-à-dire qu'il a donné son autorisation pour qu'on le contacte, il souhaite recevoir les informations, et effectivement, on en fait ce qu'on veut, on l'a quelque part acheté. C'est pas comme quand on loue une base.
Alors le truc, par contre, c'est que quand il s'est abonné, il a reçu le mail de bienvenue du site sur lequel il s'est abonné, mais il te connaît pas du tout, toi.
Ah bah si, parce qu'il a reçu, alors après il y a différentes configurations, elle rentre dans l'aspect technique des choses, mais la plupart des partenaires vont envoyer eux en ton nom, ton email de bienvenue. C'est-à-dire qu'ils vont depuis leur système, dès que la personne s'inscrit, dire voilà, bah bonjour, c'est Olivier Roland, merci de votre confiance et je vous donne le cadeau que vous avez voulu télécharger. Et toi après tu récupères le fichier de tous ces adresses email et quelques jours après tu vas leur envoyer ton deuxième message. D'accord. Donc ils te connaissent, bien entendu, ils te connaissent.
Ok, d'accord. Et ça, c'est 0,25, enfin 25 centimes d'euros par lead.
Ça commence à 0,25. Après, suivant le ciblage, suivant la performance de ton annonce, suivant tout ça, ça monte à 0,50. Mais on est dans ces eaux-là. D'accord. Pour des contacts, on va dire, entre guillemets, normaux. Des contacts d'assurance, ça peut monter beaucoup plus haut. Mais pour ce qu'on fait généralement dans le marketing Internet, pour des particuliers, pour du grand public, on est aux alentours de 0,25, 0,50 en moyenne pour avoir un volume correct.
Ok, d'accord. Donc ça, c'est les principales aujourd'hui sources de leads que tu utilises, AdWords, les campagnes d'emailing et la co-registration.
Absolument.
Alors, et pour ceux qui veulent démarrer AdWords, si je suis tapé AdWords, c'est de créer un compte. Ouais. Pour ceux qui veulent démarrer des campagnes d'emailing de co-registration, est-ce qu'il y a des sites où elles peuvent aller?
Oui, alors je déconseille de commencer par AdWords.
D'accord.
Moi, je l'ai fait, mais c'était une erreur. Maintenant, et d'ailleurs je le fais puisque j'ouvre en fait d'autres domaines. Et maintenant, quand je veux tester une activité, c'est très simple. Je fais de la co-registration. Donc, par exemple, il y a un de mes partenaires qui s'appelle Opt-in Collect. Donc, Opt-in comme un opt-in, O-P-T-I-N et Collect, COLECT.com. Et ce sont effectivement des gens qui sont spécialisés dans la co-registration. Et donc là, je suis en train de tester une nouvelle niche et je leur ai proposé de collecter, qui collecte pour moi quelques centaines de leads à 0,25€ pour effectivement voir si le concept prend ou pas.
D'accord, donc intéressant. En tout cas, voilà, ceux qui veulent essayer un petit peu ça, ils peuvent aller sur Opt-in Collect.
Voilà. Mais ce qui est intéressant pour moi, en tout cas, qui ne maîtrise pas du tout tout ce qui est SEO, blogging et autres, comme toi tu peux le faire, ça veut dire qu'en fait, pour quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, je peux avoir autant de leads qu'en un blog moyen va récupérer en un an, si tu veux. Donc ça permet de tester tout de suite, d'avoir des offres tout de suite et donc d'avoir des revenus tout de suite.
Alors attends, parce que quand tu dis entre pour 10 et 100 euros, on a l'équivalent d'un an de lead. C'est, alors moi qui défends justement le business du blogging pro, il faut que je creuse un petit peu ça. C'est-à-dire combien de leads à peu près tu peux avoir parce que...
Alors de toute façon c'est simple. Tu prends un contact à 0,25, d'accord?
Oui.
Ben si tu
donc,
fais
pour 100 c'est 25 euros.
Voilà, donc pour 100 c'est 25 euros.
D'accord. Et si tu payes 100 euros, tu as 400 leads.
Oui, donc tu vois, tout de suite, tu as un effet. Si on considère qu'un blog, si tu veux, il va récupérer quelques contacts par jour, et encore, il faut le lancer, il faut le mettre en place, il faut le chauffer quelque part, sur un an. Après, il y en a qui réussissent très très bien, et il y a vraiment des cas de succès extraordinaires. Quelqu'un qui, comme moi, et cadre à une famille, à tout un tas d'activités, à pas forcément le temps d'écrire ou autre, eh bien, il va peut-être recruter quelques centaines de leads en une année. Donc exactement la même chose que ce que moi je récupère en quelques jours en dépensant une centaine d'euros.
D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Alors bon, enfin après, faut s'en faire sur ce qu'est-ce que c'est qu'un blog moyen.
Un blog moyen. Alors je précise un point quand même, oui. C'est que je pense que quand on a un blog, les contacts qu'on récupère sont plus ciblés. Donc ils n'ont pas forcément la même valeur. Un blog a aussi d'autres avantages qui est que tu te construis quelque part ta machine qui va continuer à te rapporter des contacts même quand tu arrêtes de dépenser. Donc pour moi, ce n'est pas blogging contre publicité payante ou contre affilié. Pour moi, tout ça, ça fait partie de la même partie du triangle. Et suivant l'endroit où on est, suivant sa stratégie, eh bien on va utiliser un des modes de collecte ou un autre ou tous. Et moi aujourd'hui j'utilise tous ces modes. Je suis beaucoup moins bon que toi ou tes élèves dans le domaine du blogging, mais par contre j'ai quelques petits blogs qui rapportent quelques contacts.
D'accord.
Et en même temps je suis extrêmement actif sur tout ce domaine des médias payants.
Voilà, effectivement, ça c'est très intéressant, hein, puisqu'on a un point de vue justement différent de celui dont je parle d'habitude, puisque moi j'ai très peu, enfin j'ai exploré un peu, mais très peu ce monde du des leads payants. Ok, donc là aujourd'hui quand même 1400 leads par jour. Waouh, c'est quand même assez extraordinaire. Mais alors il y a quand même une question que je me pose. Tu dis t'as 1 million de contacts dans ta base.
Ouais.
Ça commence à représenter un pourcentage non négligeable des francophones.
C'est vrai.
Est-ce que tu risques pas d'avoir tous les contacts possibles de ta niche?
Oui, alors de toute façon, je vais te dire, il y a quelque chose qui est vrai dans le business, sur Internet ou partout, c'est que rien n'est infini. D'accord, tout est en permanence. C'est un peu zen, c'est un peu développement personnel, mais c'est vrai. C'est-à-dire que on sait très bien que dans le business, si on reste à la même place, on recule. Donc aujourd'hui, je prends le blogging. Peut-être que dans 10 ans, le blogging sera mort et sera remplacé par autre chose, sur des téléphones portables ou sur d'autres choses. Donc on est sans arrêt en train de réinventer notre activité, notre business, ce qu'on fait, et en train de nous réinventer nous-mêmes. Donc c'est sûr qu'il y a un moment où j'aurai saturé tout le stock de la niche. Par contre, des personnes intéressées par le développement personnel, il y a des gens, il y a des nouvelles naissances tous les jours, il y a des gens qui s'intéressent, de nouvelles personnes qui s'intéressent au développement personnel tous les jours. Oui, c'est donc vrai. C'est très clair que tout ce flux-là va continuer à arriver. Donc peut-être que ce que je récupérerai sera moindre, peut-être que ce sera pas 1400, peut-être que ce sera 400, peut-être que ce sera 40, parce que j'aurai saturé la niche. Mais entre nous, je préfère avoir saturé une niche vite plutôt que jamais la saturer en y passant des années.
Oui, c'est un point de vue qui se défend. Alors, moi, j'ai pas d'expérience personnelle sur le sujet, mais je connais donc un entrepreneur au Brésil qui s'appelle Érico Rocha et qui lui ouais. aussi était, a vraiment été dans AdWords à 2000% comme toi. Et il avait, mais je crois qu'il faisait 30 000 leads par mois, si je me rappelle bien.
D'accord. Bien,
ouais, et donc, oui, c'était un business qui tournait très, très bien, qui était dans le domaine de l'immobilier au Brésil. Ouais. Il s'est retrouvé, je crois, à un moment, il avait écrit qu'il avait atteint les 1% du marché, enfin, 1% de la population totale du Brésil dans ses listes.
Ouais.
Et du jour au lendemain, il est passé de, je crois qu'il faisait 200 000 dollars par mois, je ne sais plus si c'était du chiffre d'affaires ou du bénéfice, et du jour au lendemain, c'est tombé à quasiment zéro.
Ouais.
Mais...
Alors ça, je vais te dire, pour moi, ça c'est l'exemple de, c'est ce que j'appelle le one pony trick, d'accord ? Où c'est le gars qui sait bien faire une chose, mais qui n'a pas anticipé. Alors je dis pas que c'est son cas, hein, je prends juste cet exemple et je caricature volontairement en supposant qu'il ait rien fait d'autre à côté. Et j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, qui ont un succès une fois et qui considèrent qu'ils ont tout compris. Mmh. Et ils appliquent la même méthode sans arrêt, donc ils traient la vache. Mais il y a un moment où la vache meurt. C'est normal parce que les arbres ne montent pas au ciel et les vaches ne sont pas éternelles. Et il y a un moment où, quand tu as exploité un business model pendant trop longtemps, eh ben, il perd de son efficacité. Et si tu ne t'es pas réinventé en parallèle, et si tu n'as pas planté de nouvelles graines, eh ben, effectivement, ton business meurt.
Ouais, tout à fait.
Et c'est pour ça qu'il y a un élément, alors je ne l'ai pas évoqué, c'est qu'il y a le triangle d'or, mais il y a en fait deux éléments à côté du triangle d'or. Le premier, c'est toi en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire tes forces, tes faiblesses, tes limites mentales, tes blocages. Donc ça, c'est très important de travailler dessus et ton business te permet de travailler dessus. Mais il y a un autre élément qui est l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'il y a, sept leviers, il n'y en a pas 10 000, il y a 7 leviers d'amélioration. Et l'important, c'est de regarder ces différents leviers, de les améliorer petit à petit, de manière à ne pas se laisser prendre comme ça. Et tu vois, je prends l'exemple de ce gars dont tu parles. Certes, il avait peut-être touché 1% de la population via AdWords, mais en même temps il y a d'autres sources de contact et peut-être que son vrai marché accessible c'était 2, 3, 5%, mais que comme il n'a pas développé les autres sources de contact, eh bien il les a pas touchés, si tu veux. Donc il est resté uniquement sur la partie de la population qui était sur AdWords, ce qui est loin d'être le monde entier ou le Brésil entier. Mm-hmm. Et l'autre point, c'est qu'il aurait pu voir quelles autres niches connectent développées pour se générer d'autres sources de contact.
Oui, tout à fait. Oui. Non, mais ça, je pense que tu touches quelque chose de très important dans l'état d'esprit des entrepreneurs. Hein, c'est que, comme tu le dis, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, en gros. Toujours évoluer. Et ce qui est génial aussi, quand on s'intéresse un petit peu à ça, au développement personnel et qu'on aime progresser, c'est que, comme tu l'as dit très bien, une entreprise, c'est une extraordinaire manière de tout le temps être en marche, en évolution, parce que bah, on est responsable de son succès. Hein. Je veux dire, si on se repose trop longtemps, de toute façon, la sanction est immédiate et puis on voit notre compte en banque qui fond petit à petit.
Tout à fait, absolument. Mais de toute façon, si tu regardes dans la vie, notre corps humain lui-même se renouvelle en permanence. Tu vois, toutes nos cellules se renouvellent, elles meurent, elles naissent et autres. Et pour moi, notre business, c'est un être vivant. Si tu prends une plante et que tu l'arroses jamais, que tu ne changes jamais la terre et autres, et qu'elle est dans un pot, il y a un moment où elle va forcément mourir.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, pour moi, cette démarche d'amélioration continue, elle est vraiment, vraiment importante. Et ça fait partie, comme tu l'expliquais, du cœur de l'activité d'entrepreneur qui parfois va réussir des choses, parfois va échouer, mais en même temps continue à avancer et gagne parce que justement il construit sur ce qu'il apprend.
Ok, donc on a eu un excellent aperçu de comment tu as mis en place cette entreprise, comment tu as expérimenté avec les sources de leads payants pour la lancer et ensuite la rentabiliser. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de comment tu as fait pour l'automatiser ? Comment on fait pour automatiser son entreprise ?
Oui. Alors, la clé là-dedans, en fait, il y en a deux, c'est les équipes et c'est les systèmes. Pour moi, la colonne vertébrale, c'est vraiment le système. Parce que sinon, si tout doit être fait manuellement, on perd tout l'intérêt et tout l'avantage d'avoir une activité sur Internet. C'est vraiment la grande force, je trouve, d'une activité sur Internet que de pouvoir utiliser des systèmes d'information qui vont travailler à notre place, d'une certaine façon.
C'est vrai.
Et un système, ben, il ne dort jamais, on ne le paye pas, ou beaucoup moins que quelqu'un qui ferait le même travail. Et c'est ça le vrai avantage. Donc tous les gens, ceux qui n'utilisent pas de système, pour moi, se tirent vraiment une balle dans le pied. Et je pense qu'en fait, le problème, c'est que les gens fonctionnent à l'envers. Ils construisent leur boîte, ils ont des problèmes, et après, ils cherchent le système qui va pouvoir boucher les trous. Je peux le dire d'autant plus que j'ai fait comme ça.
D'accord.
Mais ce n'est pas la bonne méthode. En fait, il faut la bonne approche, c'est vraiment de dessiner, et j'insiste vraiment, dessiner son activité pour voir quelles sont les tâches qui ont besoin d'être automatisées et qu'est-ce qu'on va utiliser, par exemple, comme méthode de recrutement de leads, parce que sinon, on est bloqué. Je vais te donner un exemple très concret. Beaucoup de gens parlent d'autorépondeurs. D'accord ? Il faut un autorépondeur. Il y a quelques grands noms qui circulent et on voit un peu toujours les mêmes, que certains, un qui est anglophone et Weber, et un autre qui est francophone, SG autorépondeur. Et il y a ce débat, Aweber ou SG Autorépondeur, d'accord ? Sauf qu'en fait, pour moi, le vrai débat, il n'est pas du tout là. Le vrai débat, il est quelles sont les fonctions que notre entreprise, notre business doit faire et quels sont les outils dont on a besoin pour les réaliser. Par exemple, je parlais des méthodes de co-registration. Si tu utilises un système d'autorépondeur pur, tu ne pourras pas utiliser la co-registration. Donc tu te prives, parce que si tu n'as pas conçu ton système au début, tu te priveras définitivement de la capacité d'utiliser cette source de contact qui est très intéressante. Alors après, il y a quelques autorépondeurs moins connus qui permettent de l'utiliser, mais ils ont aussi leurs inconvénients et leurs limites, donc c'est vraiment très important de travailler là-dessus et d'être très clair.
Alors quel système tu utilises toi pour ça ?
Alors je vais répondre à ta question. Au début, j'avais plein de systèmes qui se parlaient plus ou moins bien. J'avais un système d'autorépondeur qui était hébergé sur mon serveur, j'avais un système de gestion d'affiliation que j'ai jamais réussi à paramétrer et qui d'ailleurs à un moment m'a fait planter mon serveur. Ça me fait 2 mois de business, donc j'étais un peu refroidi, si tu veux. J'avais un système de gestion des paiements, et c'était, si tu veux, c'était un peu Frankenstein. Il était vivant, mais. Il faisait un peu peur quand on le voyait. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai eu, comme toute entreprise, si tu veux, qui commence à se développer, qui a un certain succès, j'ai eu une vérification fiscale. Et donc, le contrôleur est venu, il m'a dit, voilà, on aimerait bien voir vos systèmes commerciaux. Et là, je leur ai commencé à leur dessiner l'ensemble des systèmes, tous les systèmes qui se parlaient entre eux, les scripts sur le serveur et autres. Et au final, ils ont trouvé ça tellement compliqué qu'ils ont pas utilisé mes informations commerciales parce que c'était juste une nébuleuse de logique spaghetti, de systèmes qui s'envoyaient des informations les uns aux autres. Donc, ce truc-là, je ne le recommande à personne. D'accord. Il vaut mieux commencer avec quelque chose qui fonctionne bien dès le début. Après avoir étudié un peu tout ce que je pouvais trouver, j'utilise un système qui s'appelle Office Autopilot.
Ah oui, tout à fait. Alors, donc, c'est intéressant parce que moi-même, je suis exactement ton cas là, c'est que j'ai plein de systèmes qui se parlent plus ou moins bien, ouais. Avec Aweber comme socle principal. Et justement, je viens juste de souscrire à Infusionsoft, que je suis en train de tester. D'accord. Et j'ai peut-être aussi passé Office Autopilot. Alors justement, on va en parler. Vas-y, continue.
Alors moi, j'ai regardé, si tu veux, bon, il y a du pour et du contre entre Office Autopilot et Infusionsoft. Mais par contre, il y a un point qu'il faut reconnaître, c'est est-ce qu'on parle d'autorépondeur ou est-ce qu'on parle de CRM, c'est-à-dire de système de gestion de la relation client. Comme je te l'ai expliqué, pour moi, je considère que notre rôle, notre mission, notre aspiration, notre vision, c'est de proposer aux gens de la valeur. Donc de maximiser la valeur et d'optimiser la valeur qu'on propose aux gens. Donc ça veut dire qu'on est dans la relation client. Oui. Donc l'autorépondeur en lui-même, il est idiot. C'est-à-dire qu'il y a quelques petites choses qu'on peut faire, en particulier avec Aweber, avec des histoires de listes, de comportements, mais ça reste quand même extrêmement, extrêmement basique. Quand tu as un système comme Office Autopilot ou Infusionsoft, après on peut parler de la différence entre les deux et pourquoi j'ai pris Office Autopilot, tu es capable de suivre très exactement chacun de tes contacts par rapport à leurs différents comportements d'achat. Et tu es capable d'adapter la façon dont tu te comportes automatiquement par rapport à leur comportement d'achat précédent. Et si tu veux, Office Autopilot, alors j'ai plus le prix exact en tête, il doit coûter à peu près $300 par mois. Et j'ai mis en place une règle dans ce système le mois où je l'ai eu. Et si tu veux, cette règle-là, elle m'a payé l'utilisation d'Office Autopilot pour 5 ans.
Waouh, super.
Parce que, j'ai proposé aux gens qui avaient acheté l'un de mes produits d'acheter une offre complémentaire. Donc ce qu'on appelle un upsell. Sauf qu'avant, je ne pouvais pas la faire parce que j'étais incapable de différencier les gens qui l'avaient déjà et ceux qui ne l'avaient pas.
Mais
et je
ne voulais pas embêter. Tu peux faire ça avec Aweber ou...
Oui, sauf que ça demande une intégration avec PayPal et autres. Et le problème, c'est que tu commences à multiplier tes listes la gestion devient très compliquée quand tu as un volume important.
Alors, c'est vrai. Enfin, par contre, tu n'es pas obligé d'intégrer avec le système de paiement comme PayPal ou Clickbank. Enfin, Aweber permet de le faire, c'est-à-dire en gros, le client achète le produit sur PayPal, Clickbank et automatiquement, il intègre une liste. Et ensuite, on peut faire en sorte que Aweber désinscrive ce client de la liste de prospects.
Mais oui,
simple, c'est tout simplement de l'amener après son paiement sur un formulaire Aweber où il va s'inscrire sur une nouvelle liste.
Oui, sauf qu'en fait, quand tu fais ça, tu rajoutes des expériences pour le client, tu rajoutes des difficultés, et c'est quelque chose que je déteste. Je considère qu'on est là pour simplifier la vie de nos clients et pas pour la compliquer. Donc effectivement, et j'ai fait la même chose que toi, hein, on peut utiliser tous les systèmes pour faire un peu tout. Mais sauf que plus on fait ça, et plus en fait on complique les choses, plus les risques d'erreur augmentent, et surtout quand on est une équipe comme moi, et ben plus c'est difficile d'expliquer aux gens ce qui se passe, on change des choses, ils ne sont pas forcément au courant. Donc au final, l'expérience client se dégrade. Et je te donne par exemple, moi j'avais commencé à intégrer Aweber, et effectivement, Aweber peut permettre cette intégration automatique, sauf qu'il ne fonctionne pas avec plusieurs scripts. Donc j'étais obligé de couper toute une partie de mon intelligence client. Donc là, tout ça, moi personnellement j'ai arrêté parce que c'était ingérable pour moi et pour mon équipe. Et donc on a un système intégré qui gère l'ensemble, et donc on sait exactement ce que chaque client a acheté, quand est-ce qu'il a acheté, on a des règles qui sont déclenchées en fonction de leur comportement, et surtout on a leur historique et leur comportement d'achat qui sont remontés dans notre système de support client. C'est-à-dire que quand quelqu'un envoie une question ou un problème, eh bien mon équipe support est capable instantanément de savoir ce que cette personne a acheté, est-ce que c'est un bon client, est-ce que c'est quelqu'un qui se fait tout le temps rembourser, et donc de prendre de meilleures décisions sans devoir passer de système en système.
Donc ça, c'est ce que permet Office Autopilot notamment.
Alors, Office Autopilot permet de le faire, et je l'ai couplé avec un système de support.
D'accord, qui est quoi?
Donc
c'est
Zendesk, c'est... Ah non, c'est pas Zendesk, c'est Freshdesk. Qui est vraiment très, très, très puissant de ce point de vue-là. Et donc, si tu veux, pour moi, il n'y a pas besoin de beaucoup de systèmes, en fait. Il y a besoin de trois systèmes principaux, et c'est tout. Le premier système, je viens d'en parler, c'est Office Autopilot. C'est le système qui permet d'avoir la relation avec le client et d'adapter la relation par rapport aux besoins du client. Pour moi, on est là pour ça, on est là pour répondre aux besoins du client et créer de la valeur pour eux. Et donc, c'est bien de connaître leurs besoins et c'est bien de voir à quoi ils réagissent. Donc ça, c'est un premier point, Office Autopilot. Le deuxième point, c'est un système de support qui permet par exemple, de garder l'historique de tous les échanges qu'on a eu avec un client, qui permet d'automatiser certains scénarios, certaines réponses, qui permet de faire tout ça. Et puis, le dernier point, c'est un système de paiement qui va permettre aux gens de payer, justement, et aussi de déclencher certaines actions, par exemple, de déclencher une livraison, ou qui va communiquer avec les autres systèmes. Donc, pour moi, c'est ces trois choses-là. Système de gestion client, système de support et système de paiement.
Oui, ce qui est important aussi, c'est que tous ces systèmes comme Office Autopilot, d'ailleurs, qui va bientôt se nommer OnTraport et Infusionsoft, sont conçus pour se plugger à des systèmes comme Freshdesk ou autres.
Absolument.
Et il y a tout un écosystème d'applications qui s'est développé et qui peut facilement s'intégrer à ces systèmes-là, qui sont vraiment conçus pour être ouverts et être au centre de tout le système de l'entreprise.
Tout à fait. Alors, j'ai donné un petit exemple qui explique qu'on peut réussir et faire énormément de choses même quand on n'a pas beaucoup d'argent. Freshdesk, et pour moi, on l'avait étudié, c'était le système idéal, mais il avait un problème, c'est qu'il ne parlait pas avec Office Autopilot. Et moi, je voulais vraiment que mon équipe puisse voir exactement ce qu'avait acheté un client. C'est vraiment, pour moi, ça fait partie de l'expérience qu'on offre au client, c'est de savoir, le minimum, c'est de savoir qui il est et ce qu'il fait. Et donc, j'ai fait développer une application qui permet Freshdesk a un langage, si tu veux, qui permet de faire ça, donc j'ai payé un développeur pour le faire, et je suis retourné voir Freshdesk en disant, écoutez, voilà, moi, j'ai développé cette application, et ce que je vous propose, c'est je vous donne accès à ça, mais par contre, en échange, vous me donnez des mois gratuits.
Ok.
Et donc, ce truc-là, ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Donc ça m'a permis d'amortir mes coûts de développement. Et eux, ils sont contents. Ils me considèrent comme un bon client. Et ils m'ont fait une fleur sur la durée d'utilisation. Et avec cette approche entrepreneuriale qui consiste à dire, c'est quoi le manque? Et comment je peux le développer pour moi, mais comment je peux en faire profiter les autres? Eh bien, ça marche avec nos clients, ça marche avec nos partenaires. Et on peut amener son entreprise très loin quand on raisonne comme ça.
Tout à fait. C'est vrai. Voilà, quel est le manque et comment le combler? C'est effectivement, j'ai envie de dire, c'est ces deux questions primordiales pour un entrepreneur.
Alors, j'en rajoute une troisième, si tu permets. Oui. Effectivement, qu'est-ce que c'est que le manque ou comment on peut créer de la valeur, voilà, comment on peut le combler? Et la troisième question, c'est et qu'est-ce qu'on a en échange?
D'accord, oui. Et qu'est-ce qu'on demande en échange?
Ce qui est un peu dans comment on peut le combler, mais souvent les gens ont tendance à oublier, si tu veux, cette partie de comment j'organise le retour. Parce que tu vois, là, j'ai pas demandé d'argent, j'aurais demandé de l'argent, ça aurait pas marché, mais j'ai demandé une prolongation de mon service, qui pour moi avait la même valeur monétaire, mais qui valait beaucoup moins pour eux.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose que peu de gens finalement se rendent compte. On peut encore faire du troc aujourd'hui, ça marche très bien.
Absolument, par exemple, je n'avais pas pensé à ça, mais j'ai fait du troc. Ouais.
C'est du troc, c'est du troc. Et pour eux, en fait, ça marche bien quand on demande en échange de valeur quelque chose que la personne avec qui on apporte de la valeur peut donner facilement, mais qui vaut beaucoup pour nous. Et là, on a un excellent exemple puisque pour eux, bah, ça coûte pas grand-chose de prolonger l'abonnement d'un client gratuitement pendant un an ou deux. Ils vont absorber, enfin, c'est leur équipe qui vont absorber ça sans aucun problème. Et
Tout à
pour
fait.
toi, bah, ça vaut l'abonnement que tu aurais dû payer.
Exactement. Donc, et quand on identifie ça, quand on voit les différences qui existent avec ses partenaires, mais aussi avec ses clients, et ben c'est là que, enfin pour moi, c'est vraiment le cœur de l'entrepreneur qui va créer de la valeur en rapprochant des choses qui normalement ne se parlent pas. Et pour moi, c'est ça le rôle qu'on a en tant qu'entrepreneur Internet, c'est qu'on rapproche des clients avec des offres. On rapproche des besoins avec des solutions.
Et quel système de paiement tu utilises alors? Celui d'Office Autopilot?
Non, alors en fait, bon, Office Autopilot, il s'intègre si tu veux, mais il a besoin d'avoir en face quelqu'un qui parle à des banques. Donc moi, j'ai beaucoup réfléchi au fait d'avoir des systèmes très sophistiqués avec des banques et autres, mais en fait, j'utilise PayPal et c'est largement suffisant. Il y a des fonctions que PayPal ne permet pas d'activer, mais dans mon activité, en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Ou je trouve des solutions qui sont peut-être pas aussi bonnes, mais suffisamment bonnes et qui ne justifient pas le fait de complexifier l'expérience pour mes clients. En plus, moi, ce que j'aime beaucoup dans PayPal, c'est que les gens, ils cliquent une fois, ils donnent leur mot de passe et c'est fini.
Oui, tout à fait. Ok, donc PayPal. Alors, bon, moi j'ai eu des mauvaises expériences avec PayPal, c'est-à-dire qu'une fois j'avais gagné trop d'argent,
Ah
trop
bah voilà.
vite.
Trop de clients, ouais, c'est ça le problème, je
Ouais,
t'ai dit.
bon, ça va, c'est un bon problème à avoir, mais ils ont quand même bloqué mon argent pendant un certain temps.
Ouais.
Toi, ça va, t'as pu réussir à négocier tout
Bah,
ça.
en fait, moi, si tu veux, j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai construit mon activité petit à petit et mon volume d'activité a augmenté. Et en fait, non seulement j'ai un flux récurrent d'argent, donc ils sont pas très stressés par rapport à d'éventuels à-coups sur mon compte, et en plus, je laisse beaucoup de cash chez eux. Donc il y a un matelas qui fait que même si j'ai quelques clients mécontents, ils n'ont pas de peur pour leur propre trésorerie.
D'accord. Et donc, ça veut dire que tu n'as pas d'affilié dans ton business model?
Non, j'en ai pas du tout. Pourquoi? Parce que je suis dans le développement personnel et c'est pas vraiment dans les mœurs. Autant dans le marketing internet, ça fait partie de la culture. Voilà, on promeut l'offre de quelqu'un d'autre ou autre. Autant dans le développement personnel, la plupart de mes clients, ce sont des particuliers. Le fait de gagner plus d'argent, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas forcément, voire même qui peut les choquer. Même si pour moi, je considère qu'il n'y a pas de différence entre l'aspect création d'entreprise et développement personnel, mais pour eux, ça peut être un peu un obstacle, un repoussoir. Donc, j'ai jamais mis en place ça.
D'accord.
Ça s'y prête pas.
Ouais, je
En
comprends.
tout cas, j'ai pas trouvé la bonne façon de le faire.
Bon, écoute, là, waouh, ça fait plus d'une heure qu'on est en train de discuter. Donc, en plus, on a eu un excellent aperçu de tout ça, mais c'est vraiment passionnant. On va peut-être conclure. Alors, juste, tu peux peut-être me dire très rapidement pourquoi tu as choisi Office Autopilot plutôt qu'EFusionSoft, puisque à un moment ou à un autre, bah, les personnes qui veulent utiliser ce système-là se posent la question.
Oui. Alors déjà, y a un coût à l'entrée d'Infusionsoft qui est vraiment important. Qui inclut certes des formations, qui inclut du setup et autres, mais je ne voyais pas personnellement pourquoi j'aurais dû payer ce prix-là. Et pour moi, ça m'est apparu comme une pratique commerciale un peu déloyale, the cost of disconnect, comme on dit. Donc, j'aimais pas la philosophie même.
Oui, d'accord.
Pour moi, ça montrait qu'ils n'étaient pas sûrs de leur solution et qu'ils voulaient augmenter la barrière à l'entrée de manière à ce que, une fois qu'on a essayé, on n'ait plus envie de partir, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, l'office autopilote est différent, c'est-à-dire que tu payes dès l'entrée, c'est à peu près 300 euros par mois pour 100 000, avec 100 000 emails envoyés, et tu peux essayer pendant 3 mois et tu as 3 mois pour te faire rembourser intégralement.
D'accord.
Voilà, donc ensuite, quand je regardais les exemples d'usage, d'utilisation, ce qui s'est dit un peu sur Internet, eh bien, il ressortait que Office Autopilot était plus simple à utiliser pour faire des bons de commande, pour faire des formulaires d'inscription, pour faire du tracking. Et c'était vraiment ça que je voulais. Je voulais quelque chose qui puisse être utilisé très simplement par quelqu'un qui avait, on va dire, une petite expérience d'Internet, mais pas quelqu'un qui était un expert en codage ou en je sais pas quoi, en tag. C'est pas mon cas, moi je suis pas un expert technique. Je suis plutôt quelqu'un, je suis un entrepreneur, je sais faire un peu de marketing, je sais utiliser de la logique. Et j'avais besoin, et c'était tout ce que je voulais. Donc, vrai ou faux, je ne sais pas, parce que je ne connais pas hein, Infusionsoft, mais c'est ça qui m'a fait décider pour Office Autopilot, et vraiment, Office Autopilot a changé ma vie. Donc, je n'ai pas envie d'aller voir autre chose, parce que ça correspond exactement à mes besoins.
Ok, ah, très bien, super. Bah écoute, c'est bien puisque là je suis en train de tester Infusionsoft et je trouve ça effectivement très compliqué.
D'accord.
Donc on verra. Là j'ai demandé à pouvoir avoir une démo d'Office Autopilot et on verra. Alors par contre, juste un bémol, je suis pas sûr que pour quelqu'un qui démarre, ça soit il faille passer par Office Autopilot ou Infusionsoft directement, étant donné le coût.
Oui,
Je
alors.
pense que pour quand on démarre, on est vraiment un grand débutant comme tu l'as été il y a 4 ans et qu'on veut tester tout ça, il vaut mieux prendre Aweber, voire Mailchimp puisque
Alors,
c'est gratuit. Et puis.
là, ça dépend beaucoup de la stratégie. C'est-à-dire que tout dépend de la stratégie de collecte de lead. C'est-à-dire que si on refuse d'utiliser, même au début, la co-registration, d'accord? Si on ne veut pas l'utiliser, effectivement, on peut prendre Aweber. Par contre, si on veut utiliser la co-registration, à ce moment-là, il faut prendre un système d'autorépondeur qui permet l'import des contacts, en particulier Mailchimp, mais aussi iContact, par
Eye
exemple.
contact, oui. Parce que
Voilà.
Aweber permet l'import des contacts, mais ils envoient un mail en anglais pour demander à tout le monde de valider, donc on perd 90% des gens.
Exactement. Donc c'est pour ça que, et là j'insiste beaucoup, c'est très important d'essayer de définir autant que possible la vision globale de l'activité, en sachant ce qu'on va faire et ce qu'on ne fera de toute façon pas, on va dire à horizon 1 an, de manière à pouvoir choisir les systèmes adaptés. Et tu vois, moi personnellement, si jamais je devais recommencer maintenant, d'ailleurs c'est ce que je fais, mais si je n'avais pas mes systèmes, aujourd'hui je n'utiliserais pas Aweber, je n'utiliserais pas SG Autorépondeur, même si ce sont d'excellents produits et que j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils ont mis en place, mais j'utiliserais iContact ou Mailchimp pour pouvoir utiliser des sources de co-registration.
Oui, je comprends. D'accord. Eh ben, très bien. Écoute, merci beaucoup, Laurent.
Alors, il y a un point peut-être que je veux mentionner, qui est le point sur l'éducation. Parce que, comme tu l'as dit au début, j'ai fait les mines de Paris, j'ai fait HEC, j'ai fait Harvard, et on pourrait se dire, bah, finalement, bah, ok, tu as fait tout ça, mais tu avais des super formations, donc ce que tu as fait n'est pas réplicable par quelqu'un qui n'aurait pas ces formations prestigieuses. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que ces formations ont plutôt été un obstacle pour moi. Parce que ce qu'apprennent ces grandes écoles, c'est quelque part, j'ai un peu caricaturé, c'est être un bon salarié. C'est-à-dire à voilà, connaître un certain langage, connaître certaines techniques, connaître certains outils, se plier à certaines règles, se plier à certaines normes. Mais par contre, on n'apprend absolument pas cette état d'esprit, cette logique de l'entrepreneur. Il y a même des cours, par exemple à Harvard, ou même aux mines de Paris, ou même à HEC, pour apprendre à être entrepreneur, mais même ça, à quelques rares exceptions, est quand même dans une logique qui est une logique très corporate. Ça suppose qu'on a obtenu des financements, on réfléchit à la stratégie, on fait tout ça. Mais c'est très différent du gars qui se retrouve devant son ordinateur et qui est là en disant, bon, ok, je fais quoi aujourd'hui? J'ai pas de business, j'ai pas de site internet, j'ai pas de lit, j'ai pas de produit, comment je commence? Et je vois les différences de discussion que j'ai avec des gens qui sont des grandes entreprises, parce que je conseille des directions générales de sociétés, même qui sont dans Internet et autres, et je vois que notre approche est totalement différente. Et souvent, eux sont bloqués parce qu'ils vont concevoir un projet et ils vont se dire comment je peux avoir le financement de 50 000, 100 000 euros, et on discute 1 heure, et à la fin, ils ressortent en disant, ah, c'est super, parce que avec quelques astuces, je vais pouvoir déjà générer 10 000, 20 000 ou 50 000 euros sans avoir rien dépensé, et après, je pourrai obtenir un budget plus important. Donc il y a vraiment une différence d'état d'esprit que moi j'ai jamais apprise dans mes études, et pour moi c'était donc plutôt un obstacle quelque part. Par contre, ce sur quoi mes études m'ont aidé, c'est peut-être à me rassurer moi-même, c'était une histoire de confiance en moi, je voulais me prouver que je pouvais le faire, et le fait de me donner de la crédibilité par rapport à mes employeurs, c'est-à-dire que ça m'a permis, quand j'ai négocié mon temps partiel, de pouvoir dire, ben voilà, j'ai quand même un certain pédigré, vous pouvez me faire confiance, je vais travailler 3 jours, mais par contre, vous en aurez pour votre argent. Et ça leur a donné confiance et ça m'a permis de négocier ça sans avoir besoin d'utiliser les clauses spécifiques de la loi.
D'accord. Ah oui, alors c'est très intéressant que tu dises ça. C'est vrai que on voulait parler de ça, j'avais un peu zappé. Donc voilà, pour toi, HEC, les mines et le MBA, qui sont les diplômes parmi les plus prestigieux qu'on peut avoir dans le business, ça ont été des obstacles dans ta carrière d'entrepreneur.
Oui, mais je vais te dire, c'est de ma faute. C'est pas inhérent à eux. C'est-à-dire que si j'étais arrivé aux mines de Paris, à HEC et à Harvard en disant je veux être entrepreneur, Déjà, peut-être que j'aurais pas fait ces études, d'accord? J'aurais peut-être fait comme toi, j'aurais peut-être créé ma boîte tout de suite. J'aurais peut-être perdu moins d'argent et moins de temps, ça c'est possible. Mais si j'étais arrivé dans ces établissements en me disant, ok, je veux utiliser les ressources qui existent de manière à pouvoir réussir le mieux possible en tant qu'entrepreneur, je pense que ça, au contraire, ça m'aurait aidé. Mais je n'avais pas cet état d'esprit-là.
D'accord, t'avais pas cette démarche.
Et donc, si tu veux, c'est un peu comme quand tu vas dans un supermarché et que tu vois les promos en tête de gondole et autres. Si tu sais pas le produit que tu cherches, tu le trouveras jamais. Par contre, il est là. Et c'est clair que tu regardes HEC, les mines et Harvard, tu as peut-être parmi les meilleures sources de formation pour l'entrepreneuriat. T'as, par exemple, t'as des gens qui sont prix Nobel en économie qui enseignent à Harvard, t'as le MIT en face, t'as des possibilités de faire des partenariats entre gens de la business school et gens du MIT sur des innovations technologiques. Donc tout ça existe. Mais par contre, il faut être dans la démarche d'aller les chercher et les utiliser. Et je crois que c'est pareil partout dans la vie. Si tu veux, tout existe dans la vie. Après, il faut se prendre en main, prendre ses responsabilités et aller chercher les choses là où elles sont.
Voilà, très très bon conseil pour terminer cette interview. Il faut aller chercher finalement, avoir la démarche d'aller chercher les informations dont on a besoin pour accomplir nos objectifs et puis les mettre en pratique, hein. Ça c'est la clé évidemment.
Tout à fait.
Et bah, écoute, très bien, merci beaucoup Laurent pour tout ça. Là j'ai un mind map énorme de ce que tu nous as dit.
Merci pour ton temps et puis merci pour tes questions et tout ça, parce que c'est vrai qu'on parle assez peu souvent de ces côtés système, de ces côtés équipe, organisation. Souvent on est un peu sur le mythe, on est un peu sur le rêve d'Internet, et là je te remercie parce que ça a permis d'aller vraiment dans le concret et dans la réalité de ce qui pour moi est l'un des métiers les plus fabuleux au monde.
Oui, tout à fait, effectivement. Et ça, les systèmes, c'est quelque chose qui me passionne. Hein. J'ai eu l'occasion d'en parler sur mes blogs, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et c'est vraiment fascinant de pouvoir discuter avec quelqu'un comme toi qui a vraiment érigé ça en science et en art, j'ai envie de dire, et de manière concrète, puisque tu as quand même une entreprise qui fait plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on ne parle pas de vent, mais de vraiment quelque chose de concret qui fonctionne nuit et jour, même quand tu dors.
Tout à fait. Eh bien, écoute, merci ouais. En tout cas.
Oui, bah, merci à toi et donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.
À très bientôt, salut.